Notre rendez-vous de la mi-journée avec la rédaction de France Culture et le journal. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Nicolas.
Le Hamas n'a toujours pas donné sa réponse à la proposition de trêve de 40 jours associée à une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza.
Oui, nous serons à Jérusalem dès le début du journal pour tâcher de savoir ce que contient exactement cette offre de cessez-le-feu. On se rendra également aux États-Unis où la vague de protestations contre la guerre menée par l'État hébreu dans l'enclave palestinienne gagne de l'ampleur dans les universités. Et puis toujours en lien avec cette guerre au Proche-Orient, nous serons devant les locaux de la police judiciaire à Paris où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en soutien à Mathilde Panot et Rima Hassan. Les deux insoumises étaient entendues ce matin dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme. On en parlera également avec notre invité aujourd'hui, le politologue Gérard Grimbert. Dans le reste de l'actualité, on s'intéressera aux chiffres de la croissance en France. L'activité économique a déjoué les pronostics pour progresser de 0,2% au premier trimestre. Enfin, Arnaud Lagardère, mis en examen hier dans le cadre d'investigations sur le financement de dépenses personnelles par ses sociétés, a abandonné ce matin ses mandats exécutifs, dont celui de PDG. Une lueur d'espoir est-elle encore possible après bientôt 7 mois d'une guerre dévastatrice? Le secrétaire d'État américain veut y croire. Anthony Blinken est attendu aujourd'hui même en Israël dans le cadre d'une énième tournée au Moyen-Orient destinée à promouvoir une trêve entre les deux belligérants. Son homologue français Stéphane Séjourné est également sur place. Et puis de son côté, à l'issue d'une réunion au Caire hier avec les pays médiateurs, le Hamas palestinien prépare sa réponse à une offre de cessez-le-feu dans la bande de Gaza associée à la libération d'otages israélien. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem. Que sait-on exactement du contenu donc de cette offre de trêve qualifiée extraordinairement généreuse par le chef de la diplomatie américaine?
Eh bien cette fois, il est question d'un cessez-le-feu total dans le cadre d'un plan en 2 étapes dont les détails transpirent et sont encore parfois contradictoires. Dans un premier temps, en tout cas, une trêve humanitaire temporaire. On parle d'environ 6 semaines avec la libération de 33 otages. Jusqu'à présent, les négociateurs israéliens exigeaient la mise en liberté de 40 otages. Et cela en échange de plus d'un millier de Palestiniens détenus en Israël. Une seconde étape porterait sur la libération de tous les autres otages et aussi sur l'arrêt des combats. Et c'est précisément sur ce point, Thomas, que la négociation achoppe. Le Hamas, lui, exige la fin de la guerre, une option qu'Israël rejette. À ce stade, Israël attend donc la réponse du Hamas avant d'envoyer au Caire son équipe de négociateurs pour finaliser un accord. Les familles des otages font pression sur le gouvernement pour ne pas rater cette occasion de sauver leurs proches. Des pressions internationales également avec les visites, vous l'avez dit, des ministres français et américains des affaires étrangères. Et de son côté, le premier ministre israélien Netanyahou est pris entre deux feux. L'extrême droite qui affirme que cet accord signerait la fin de l'actuel gouvernement et le centriste Benny Gantz qui estime, lui, que sans libération des otages, eh bien, la coalition perd toute légitimité.
Merci Michel Paul en direct de Jérusalem. Alors, si l'affrontement au Proche-Orient est indéniablement complexe et que les parties ont toute une part de responsabilité, est-il seulement encore possible d'en discuter depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël et la guerre de représailles menée par Tel Aviv à Gaza? Il est un débat qui partout ne cesse d'alimenter la polémique, celui justement sur la liberté d'expression, comprenez le droit de s'exprimer tout en respectant l'altérité et la confusion régulièrement entretenue entre l'État d'Israël d'un côté et les juifs de l'autre. Soutien pro-palestinien contre parole antisémite, les visions et les versions s'affrontent et c'est le cas notamment sur les pelouses académiques des campus américains de la côte Est à la côte Ouest. La contestation contre la guerre à Gaza a gagné de très nombreuses universités publiques ou privées d'ailleurs, le tout sur fond de campagne présidentielle qui ajoute certainement encore plus à la polarisation. Dernière illustration en date, l'université Columbia de New York, d'où est parti ce mouvement pro-palestinien. Sébastien Power, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Washington. Voilà 10 jours maintenant que des étudiants et militants donc, ont installé un campement pour exiger de leur établissement qu'ils coupent les ponts avec des mécènes liés à Israël. Or, hier soir, Sébastien, la direction de l'université a commencé à sanctionner les étudiants qui refusent de quitter les lieux.
Oui, parce que le bâtiment Hamilton est occupé maintenant depuis hier soir minuit. Les étudiants ont cassé une vitre avec un marteau et ils sont entrés à l'intérieur avant de bloquer les portes avec du mobilier. L'opération a pris une 20aine de minutes. Ils ont ensuite déployé une banderole aux fenêtres dans les étages où il est écrit « Inns Hall ». Ils ont rebaptisé les lieux du nom d'une fillette de 6 ans qui est morte pendant la guerre à Gaza. La direction donc demande à la communauté universitaire de ne pas se rendre sur le campus aujourd'hui et elle a commencé effectivement à sanctionner les étudiants étudiants par des suspensions administratives pour ceux qui n'ont pas respecté l'ultimatum qu'elle avait fixé à hier pour lever le campement de tentes installé depuis 10 jours. Il reste environ 80 tentes sur les 200 ce matin ici. Ce bâtiment à Milton a déjà été occupé plusieurs fois depuis les années 60. La première, c'était en avril 68, contre la guerre du Vietnam. Les élèves de l'époque avaient retenu le doyen dans son bureau pendant une nuit et la police avait évacué les lieux une semaine plus tard en passant par des tunnels souterrains. Plus de 700 personnes avaient été arrêtées. Ça avait recommencé le mois suivant, mais les 250 étudiants n'étaient restés cette fois à l'intérieur qu'une dizaine d'heures.
Merci Sébastien Paou en direct de Washington. Et puis je précise que ce matin, l'ONU se dit inquiète de l'impact disproportionné des actions de la police sur les campus américains. Alors ce mouvement de protestation dans les universités n'est pas circonscrit aux seuls États-Unis. C'est aussi le cas en France, après que des étudiants qui réclamaient que leur établissement condamne la guerre de représailles menée par l'État hébreu dans l'enclave palestinienne ont brièvement occupé les locaux de Sciences Po Paris. Alors là aussi, la même intrusion politique se fait jour, en l'occurrence les élections européennes et des affrontements entre les deux extrêmes de l'échiquier idéologique, au point que cette question israélo-palestinienne a même conduit à une judiciarisation des prises de position. C'est ainsi que ce matin, Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis et Rima Hassan, candidate LFI aux européennes, ont été entendus par la police dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme. Et avant de s'intéresser avec notre invité sur la focalisation donc aujourd'hui de la France insoumise mis sur cette cause palestinienne. Petit détour par la mobilisation organisée ce matin près du palais de justice de Paris en soutien justement à Mathilde Panot et Rima Hassan. Antoine Marette était sur place, reportage.
Ils sont quelques centaines sous la pluie, des députés insoumis, des syndicalistes, des représentants d'associations, de simples militants. Les prises de parole s'enchaînent. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, est acclamée par la foule. C'est au tour de Rima Hassan de s'exprimer. L'activiste franco-palestinienne, septième sur la liste LFI aux européennes, dénonce, je cite, « les organisations de lobbyistes pro-israéliens ». Et lors d'un échange avec les journalistes, elle ose une comparaison audacieuse.
Si on avait un cas similaire avec des organisations russes qui reprenaient la propagande russe, qui s'affichaient en photo avec Poutine, je crois que tout le monde serait indigné ici. On porte autant atteinte à nos libertés par des organisations qui, au fond, défendent des intérêts étrangers. Et bien là, il y a un parallèle à faire. Vous comptez les années de violation du droit international, Netanyahou est pire que Poutine. Vous parlez d'une occupation, d'une colonisation. Ça fait combien de temps que les territoires palestiniens sont occupés et colonisés ? Plus de 50 ans.
Rima Hassan, tout comme Mathilde Panot, ont ensuite quitté les lieux pour rejoindre les locaux de la police judiciaire.
Reportage signé Antoine Marette. Et pour tâcher de mieux comprendre donc pourquoi cette question palestinienne a pris une position aussi centrale à l'exclusion de quasiment toutes les autres dans la campagne électorale de LFI, invité à présent de la rédaction, Gérard Grimbert, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On entend beaucoup dire que la stratégie de LFI consisterait en une sorte de calcul électoral qui viserait uniquement à mobiliser les électeurs d'origine musulmane dès lors que les banlieues ont largement voté pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Je crois que Jean-Luc Mélenchon a vu, à mon avis à juste titre, qu'il y avait pour lui une opportunité très importante à ce moment politique pour lui-même reprendre la main. Parce que, comme vous le savez, les élections européennes se présentent assez mal pour LFI, puisque, au fond, la campagne ne décolle pas et que les sondages mettent à peu près la liste LFI aux alentours de 7%, ce qui est évidemment très loin des 22% de la présidentielle. Donc, je crois que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, pour plusieurs raisons d'ailleurs qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que il a aujourd'hui compris que il lui fallait enjamber les élections européennes. Vous remarquerez que les thèmes européens sont très peu présents dans sa campagne. C'est pour ça qu'il a focalisé sur la question de Gaza et des rapports israélo-palestiniens. Pourquoi ? Parce que c'est une crise réelle, que les Gazaouis bénéficient aujourd'hui d'une grande popularité dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de pays. C'est le cas en France en particulier, évidemment chez les musulmans, mais aussi, on l'a vu chez les étudiants, vous venez d'en parler, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Parce que, et là, quelque chose qui ressemble un peu, avec bien sûr d'autres, avec des différences, mais qui ressemble un peu au mouvement de 68. Donc il est bien parce qu'il est au cœur de la crise et il défend, au fond, des positions qui sont assez populaires. Donc ça, je crois que c'est la première raison, si vous voulez, de cette la manière dont il s'est emparé lui-même de cette question. Ensuite, je crois que quand je dis qu'il enjambe, je pense qu'il pense d'abord à la présidentielle. Il veut se représenter, et si évidemment les élections européennes sont mauvaises et sûrement décevantes pour lui, en revanche, l'élection présidentielle se présenterait pas trop mal en réalité, si l'on regarde l'ensemble de la gauche. Là, un sondage récent nous montrait qu'il arrivait nettement en tête et le seul probablement à faire plus de 5% de l'ensemble des candidats de gauche, et même Unis contre lui, il n'est pas sûr qu'il arriverait devant. Donc je crois que voilà, il joue l'élection présidentielle, il la joue sur ces thèmes-là. Et troisième raison qui me paraît importante, c'est que alors qu'aujourd'hui la stratégie de Vladimir Poutine est très clairement, d'ailleurs ils l'ont quasiment dit eux-mêmes autour de Poutine, et d'écraser les villes, et en particulier, il va commencer par Kharkov, écraser les villes ukrainiennes, et donc, au fond, d'une certaine façon, une tendance génocidaire, puisqu'il tape sur les immeubles d'habitation, il tue tous les jours, il blesse tous les jours des gens, et pareil, et pour neutraliser ce thème qui évidemment est un peu ennuyeux, pour Mélenchon, eh bien lui, il estime qu'il s'agit d'un génocide à Gaza et que c'est le seul vrai génocide aujourd'hui. Donc ça lui permet, là encore, de ne pas parler de l'Ukraine, de ne pas parler de Poutine et de encore une fois, de ne pas parler des thèmes qui sont au centre d'autres campagne, en particulier de celle de Glucksmann, qui au contraire insiste d'abord sur l'Ukraine et pour l'instant pourrait faire un score très important.
Gérard Grimbert, je me permets de vous couper. Est-ce que le fait aujourd'hui d'affronter la polémique plutôt que de la désamorcer n'est pas aussi peut-être le signe que les Insoumis cherchent quelque part à porter un discours de critique radicale quant à la manière dont les débats sont généralement posés dans le champ politique et du coup d'assumer un positionnement finalement assez classique au sein de cette famille politique?
Oui, vous avez tout à fait raison, je crois que c'est ça, je crois que c'est très délibéré d'adopter, mais il l'a dit lui-même, Mélenchon, c'est un peu la stratégie du chaos. C'est du désordre que naîtra l'ordre nouveau. Donc je crois que vous avez raison. Il est tout à fait dans sa ligne politique et il s'agit bien de. On l'a vu par exemple lorsqu'il a estimé que le président de l'Université de Lille qui avait interdit une réunion sur Gaza. Et quand il a dit qu'au fond c'était comme Eichmann qui était l'artisan de la Shoah, l'artisan de la destruction des Juifs, on voit bien qu'il a toutes les limites sont franchies et que c'est bien délibérément l'idée de ce que vous disiez, l'extrême radicalité.
Merci Gérard Grimbert, politologue, directeur de recherche émérite donc au CNRS, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Il est 12h44 sur France Culture. C'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Parce qu'à l'approche des élections européennes, la dégradation des finances publiques est devenue à gauche comme à droite un angle d'attaque contre la majorité présidentielle. Le gouvernement a subi hier à l'Assemblée et comme attendu, les tirs croisés des oppositions. Et nul doute que les débats suivront peu ou prou le même scénario cet après-midi encore au Sénat, quoi qu'il en soit, et tandis que l'exécutif continue donc à placer la maîtrise des dépenses au cœur de sa stratégie ce matin, l'INSEE publiait pour sa part une première estimation de la croissance au premier trimestre, de quoi juger de la crédibilité de l'ambitieuse prévision du gouvernement. En l'occurrence, l'activité économique a progressé, plus 0,2% au premier trimestre, soit une très légère accélération. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Même si le réveil de la croissance reste encore extrêmement modéré, le gouvernement y voit lui déjà un signe de la solidité de l'économie du pays. Quoi qu'il en soit, ces chiffres s'expliqueraient donc notamment du fait des investissements des entreprises moins moroses que prévu.
Oui, elles ont investi 0,3% de plus que le trimestre dernier, loin devant les prévisions, alors que leur argent en trésorerie vient plutôt à manquer en ce moment et que les défaillances augmentent. Des explications de plus long terme sont peut-être à chercher, comme le souligne Denis Ferrand, directeur général de l'Institut d'études Rexecode.
On ne sait pas qualifier véritablement ce qu'il y a derrière ce chiffre de l'investissement, parce que on a un investissement notamment afin de transformation des entreprises pour de l'investissement en décarbonation, de l'investissement pour économiser l'eau, dont on voit que ce sont des déterminants de plus en plus importants dans les choix d'investissement de la part des entreprises.
La croissance résiste aussi grâce à la construction de logements qui reste stable malgré la crise. Ailleurs, la production plus 4% et la consommation plus 0,5% rebondissent dans le domaine alimentaire, notamment car les salaires et les pensions de retraite ont progressé plus vite que l'inflation ce trimestre et que le pouvoir d'achat revient. Car c'est l'autre chiffre important aujourd'hui. L'INSEE évalue en effet ce matin la hausse des prix à 2,2% sur un an en avril contre 2,3% en mars, ce qui soulève une nouvelle question. Alors que l'économie s'est remise des chocs inflationnistes de l'énergie, la hausse des salaires pourrait faire persister l'inflation.
Donc on pourra vraiment parler de désinflation quand vous aurez l'inflation dans les prix des services, qui est actuellement de 3,1%, quand cette inflation-là sera revenue à 2%. Donc il faut bien que la désinflation passe par toutes les cases avant que l'on puisse en faire le diagnostic quant à sa disparition.
Le gouvernement peut en tout cas se réjouir. L'INSEE estime que l'acquis de croissance pour cette année, c'est-à-dire le niveau de croissance annuel si l'activité reste désormais stable à 0,5%, sa prévision de 1% semble devenue un peu moins irréaliste à la lumière des chiffres de ce matin.
Merci Valentin Gris. Réponse de l'exécutif à la colère paysanne. L'Assemblée débute aujourd'hui l'examen du projet de loi d'orientation agricole. Un texte censé rassurer les générations futures d'agriculteurs, mais dont certaines dispositions inquiètent déjà à gauche et chez les défenseurs de l'environnement.
Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain à Paris pour agression sexuelle sur deux femmes.
Oui, rappelons qu'à 75 ans, l'ex-star du cinéma français est déjà mis en examen pour viol et qu'au total, une vingtaine de femmes ont dénoncé contre lui des faits qui vont de l'outrage aux violences sexistes en passant par du harcèlement ou des agressions sexuelles. Héritier déchu de l'Empire qui porte toujours le nom de son père, Arnaud Lagardère, 63 ans, a été mis en examen hier pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir. Il est notamment soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie. Thomas Pinaroli, bonjour.
Bonjour.
Et ce matin, Arnaud Lagardère a donc annoncé son intention de former un recours.
Oui, l'homme d'affaires indique que sa mise en examen implique essentiellement des sociétés lui appartenant à 100% et non le groupe Lagardère dans son ensemble. Il conteste donc son interdiction de gérer, interdiction qui l'a obligé à quitter son poste de PDG ce matin. Les magistrats du parquet national financier reprochent à Arnaud Lagardère d'avoir payé avec les fonds de ses entreprises des travaux dans les immeubles où il habite, des créances de succession et plusieurs avances en compte courant entre 2009 et 2022. Ils le soupçonnent aussi d'achat de votes lors d'une assemblée générale du groupe en 2018 au détriment du fonds Amber Capital, actionnaire avec lequel Lagardère était en guerre ouverte et qui a déposé une plainte à l'origine de l'enquête du parquet national financier. L'illustration d'une gouvernance laborieuse et d'une lente descente aux enfers pour Arnaud Lagardère, depuis la mort il y a 20 ans de son père et fondateur du groupe, Jean-Luc Lagardère. Il y a eu la vente de plusieurs sociétés stratégiques, la plus spectaculaire étant la branche aérospatiale, AEDS, devenue Airbus, puis l'endettement toujours plus important, poussant Lagardère à faire entrer de nouveaux actionnaires, jusqu'à perdre complètement le contrôle à la fin de l'année dernière, lorsque le groupe Vivendi de Vincent Bolloré a acté le rachat de toutes les actions d'ici 2025.
Merci Thomas Pinaroli. Voilà des années que l'impact réel des écrans sur le développement des enfants fait débat, sans que les études, pourtant nombreuses sur ce thème, ne parviennent nécessairement aux mêmes conclusions. Un comité d'experts doit rendre son rapport aujourd'hui au président Emmanuel Macron, lequel entend déterminer le bon usage des outils numériques à la maison comme à l'école. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert et pluvieux sur la majeure partie du territoire, à l'exception de l'Alsace, où le ciel restera sec et lumineux, idem sur l'Aquitaine et puis de la Haute-Normandie au Poitou-Charentes. Là aussi, le soleil pourra offrir quelques éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.